Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode du mercredi 10 février 2021. À mes côtés pour m'accompagner, eh bien j'ai toujours Olivier De Scutter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et nous avons notre spécialiste de la semaine, spécialiste en préparation physique et mentale, à savoir Jean Collinet. Salut Jean.
Salut les gars.
Alors Jean, hier on a parlé du stress, on a essayé très rapidement de définir le stress et puis de voir quels pouvaient être les bienfaits ou les méfaits, notamment dans le sport. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du flow. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet état de flow? Déjà, est-ce que c'est un buzzword? Est-ce que c'est un mot à la mode ou est-ce que ça existe vraiment?
Alors, il y a plusieurs questions là-dedans.
Hein. Bah oui, alors, comme ça je te laisse longtemps la parole.
Est-ce que c'est à la mode? Oui, ça fait déjà un petit temps que c'est à la mode, mais en tout cas, c'est assez moderne comme concept. Hier on a parlé d'une étude de 1936, donc ça c'était pas très moderne, mais ici c'est quelque chose qui occupe les psys et les préparateurs mentaux depuis une bonne dizaine d'années quand même. Hein. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que ça existe? Bien oui. Hein, le meilleur exemple de l'état de flow, c'est peut-être un exemple qu'on retrouve dans la vie quotidienne, c'est je suis en train de lire un bouquin, j'ai lu 100 pages, il y a 2 heures qui sont passées, et j'ai l'impression qu'il y a 20 minutes qui sont passées. Ou bien je suis pleinement en train d'être concentré dans mon livre. On m'appelle, dans les gros clichés, il y a le dîner qui est prêt, on m'appelle pour manger et j'entends même pas qu'on m'appelle. Ça, c'est un état de flow. C'est-à-dire je suis tellement concentré dans ce que je suis en train de faire que mon attention, elle est focalisée là-dessus et que même tous mes sens vont uniquement dans une direction. Et donc, je ne vais pas percevoir que le temps passe, je ne vais pas percevoir qu'on m'appelle, etc.
Oui, du coup, à la différence de l'hypnose, où là, on est pseudo-endormi, quand on est dans cet état de flow, tel que tu le définis, eh bien, on est juste conscient, mais on est très concentré dans là ou les tâches que l'on est en train d'exécuter.
Alors, c'est intéressant que tu compares à l'hypnose. Le parallélisme qu'on peut faire entre les deux, c'est qu'il y a un état de conscience modifié. Hein. Donc, ce qu'on va retrouver, par exemple, dans l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, mais on va dire qui est très profondément modifié. C'est-à-dire qu'on va avoir une intensité de la modification de l'état de conscience qui va être beaucoup plus importante que, par exemple, quand je suis focalisé dans mon bouquin. Mais c'est vrai que c'est à peu près la même chose au niveau intellectuel, c'est un petit peu la même chose, mais c'est quand même très très différent parce que en hypnose, je vais pas faire un triathlon sous hypnose quoi. Hein, ça va pas être possible.
Alors pourquoi tiens d'ailleurs ça va pas être possible? Alors on dévie un peu du sujet du flow, mais pourquoi est-ce que ce serait pas possible de faire un triathlon sous hypnose? On voit bien des émissions de télé qu'on pourrait qualifier d'un peu limite où des gens hypnotisent à distance, on fait faire des choses à des spectateurs hypnotisés sans même qu'ils s'en rendent compte alors que ils sont juste en train d'assister à l'enregistrement de l'émission. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un triathlon sous hypnose?
Alors peut-être qu'on pourrait. Je dois avouer que mes compétences ont certaines limites là-dedans, mais en tout cas dans la manière dont moi j'utilise l'hypnose, ou à la manière de je vois l'hypnose comme plus comme un outil, par exemple de préparation mentale, c'est plus un outil qu'on va utiliser dans un cadre, où il y a une énergie qui est basse, où il y a quelque chose de l'ordre du calme et de la presque de la relaxation. Alors que bon, un effort physique intense, même si c'est pendant des heures, c'est quand même pas la même chose.
Dans l'épisode d'hier, Olivier, t'as posé une question justement sur la gestion de son stress par rapport à la course d'ultracyclisme qu'il a prévue pour le mois de mai. Il y a quelques années, je me suis aligné sur le départ du marathon Nice-Cannes, et puis j'avais un copain qui était avec moi, un vrai métronome. Hein. Le gars, on lui dit tu cours à 5 minutes au kilo, donc à 12 km/h, et il se cale et il y va. Et donc, il me servait un peu de lièvre parce que lui, il était juste en préparation, en entraînement, puis il voulait courir la course avec moi. Il est parti devant, il s'est calé à 5 minutes au kilo, et jusqu'au 16e, j'étais dans ses pas. Et effectivement, j'ai ressenti puis cette sensation d'être concentré sur ses pas, concentré sur l'allure. Et quand à un moment il a dû décrocher pour aller prendre le ravito, ben moi j'ai continué sans faire attention, sans rien voir d'autre que l'allure à laquelle j'allais. Est-ce que tu crois que c'est assimilable à ce fameux état de flow?
J'en suis persuadé. Il y a quelque chose qui me fait penser directement à ça. C'est la notion de feedback. Qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer dans le flow? Il y a différents critères, mais un des critères principaux, c'est le feedback. C'est-à-dire que je vais recevoir certains feedbacks qui me guident vers une certaine action. Et ici, le feedback que tu as eu, c'était le rythme des pas de ton pote. Peut-être ça peut être son rythme au niveau de ses bras. Enfin, ça peut tout des éléments de rythme de l'autre que tu as intégré. Comme si on te disait tout le temps pied droit devant, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Comme s'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui venait te donner un feedback constant sur ce que tu étais en train de faire et qui t'emmenait avec lui. Okay? Et on va retrouver ça, par exemple, les sports où on a beaucoup de feedback, ça va être un match de volley, par exemple. J'ai envie de dire un match de volley féminin par exemple, ben ça tape dans les mains tout le temps, ça chante, ça crie, il y a une espèce d'énergie comme ça qui accompagne les joueurs ou les joueuses. Ce qui fait que je vais rentrer dans le flow, il y a trois choses principales. La première chose, c'est: est-ce que l'objectif est intégré? Donc par exemple, si pour toi faire 5 minutes au kilomètre c'était quelque chose qui était complètement impossible, eh bien t'aurais essayé, mais t'aurais vite fait de sortir ton état de flow parce que t'aurais eu, je sais pas moi, ton mollet explosé, ou t'aurais pas pu suivre au niveau respiratoire, peu importe. Ok, tu t'aurais pas su rentrer dans l'état de flow. Donc il y a le fait que ces 5 minutes au kilomètre, ça te correspondait à toi et tu en étais persuadé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'action. Okay? Quelles sont les actions qui vont m'amener dans l'état de flow? Hier, on parlait des actions par rapport au stress. Ici, on parle des actions par rapport au flow, donc par rapport à la concentration. Et on se rend compte que dans le sport, eh bien, l'action est vraiment centrale, en fait. Et quelle signification je donne à l'action? Et ici, l'action, ça peut être simplement de pousser sur le sol d'une certaine manière au même rythme que l'autre. Et alors, la troisième chose, c'est ce dont je parlais avant, c'est le feedback. Ok? Et donc, c'est comment est-ce que je me donne du feedback? Parce que, on n'a pas tous la chance d'avoir un pote qui nous donne le rythme devant à chaque course. C'est utile, hein, t'en as fait l'expérience. Mais parfois, on est tout seul. Olivier, pendant ses 1000 kilomètres, il va se dire, j'aimerais bien avoir quelqu'un devant moi qui me donne le rythme. Eh bien, ce sera pas toujours possible. Et donc, il va devoir se donner du feedback à lui-même. Il va devoir trouver des éléments pour se dire je suis dans la bonne dans le bon rythme. Enfin, il y aura son compteur, etc. Hein. Mais quelque part, il va falloir qu'il se récompense, qu'il se dise c'est bon, Olivier, t'es dans la bonne direction, continue comme ça. T'as choisi d'être là. Enfin, c'est pour ça que t'es ici. C'est pour vivre ce moment-là que t'es ici, etc. Donc c'est comment est-ce que je m'alimente moi-même, en fait. Et ça, c'est la clé de beaucoup de sportifs qui n'ont pas la chance d'avoir leur coach ou leur pote qui les aide, quoi.
Moi, il y a quelque chose que je fais souvent quand j'ai des distances peut-être un petit peu longues ou des épreuves un peu éprouvantes, on va dire, que ce soit à vélo ou en course à pied, hein, ou même en natation d'ailleurs. Je découpe en fait la distance ou en tout cas la durée en fraction. Donc typiquement, je vais me dire là j'ai fait un huitième de ma course, donc du coup j'ai plus qu'à faire encore une fois ça et je serai à un quart. Et puis et donc ça me permet à chaque fois de me fixer des micro objectifs, on va dire, au sein même de l'épreuve. Est-ce que ça, finalement, ça c'est lié un petit peu au côté feedback, oui, dont tu parles?
C'est tout à fait ça, hein. C'est développer un langage interne, une manière propre d'aborder ce que j'ai devant moi. Et on a tous des repères, et bon, c'est un exemple assez commun. Et en fait, ce mécanisme va faire, c'est que ça va t'aider à développer un sentiment de compétence. Donc tu vas te sentir compétent d'avoir déjà fait un huitième. Et parce que j'ai fait un huitième, bah je peux faire deux huitièmes, trois huitièmes, quatre huitièmes, et ainsi de suite. Un exercice tout à fait pris par hasard, on écrit un livre, eh bien, je vais faire cinq pages, et je vais me dire, ah ouais, cinq pages, ça a été, quoi. Et en plus, elles ont l'air intéressantes, donc si je sais en faire cinq, je sais en faire dix, je sais en faire quinze. Les feedbacks sont nécessaires pour alimenter ce sentiment de compétence, parce que on a un peu abordé le flow par une approche directement très concrète, mais la théorie de base du flow, c'est que je vais être dans le flow à partir du moment où il y a une cohérence, une congruence entre le challenge qui est devant moi et mon sentiment de compétence. Donc si j'ai un challenge qui est vraiment très très élevé, genre par exemple, allez, il y a des gens qui font 1000 km à vélo, eh ben 1000 km à vélo, et que moi je suis un cycliste du dimanche où je fais 30 40 quand j'ai le temps, ben je vais jamais être dans le flow, hein, je vais être dans une anxiété massive parce que je vais pas pouvoir développer les compétences pour faire ça. Et donc à l'inverse, si j'ai un sentiment de compétence qui est très fort mais que j'ai devant moi un challenge qui est vraiment faible, eh bien, je vais m'ennuyer. OK? Et donc je vais être dans le flow quand mon sentiment de compétence sera cohérent par rapport au challenge qui est devant moi. Et bien souvent dans le sport, les gens se mettent des challenges élevés, hein, parce que le sport est fait comme ça, qu'on va souvent vers quelque chose de plus difficile, hein. C'est rare qu'on se dise, ouais, cette année je vais faire un truc plus facile, plus tranquille. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est quand même assez rare. Et donc le challenge généralement élevé. Donc la question, c'est comment j'alimente le sentiment de compétence pour être dans le flow, être dans ma concentration et vivre une expérience positive. Parce que un élément qui est fondamental du flow, c'est le plaisir. Et c'est ça qu'on va retrouver quand je suis captivé par mon bouquin, quand je suis captivé par un morceau de piano que j'ai appris, ou quand je suis sur mon vélo et que j'ai un vrai plaisir et ça fait 5 heures, 6 heures que je suis sur mon vélo. Le point commun entre ces trois activités, c'est le plaisir.
Pour reprendre un exemple sur le vélo, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé dans certaines sorties de me dire, bah, en fait, passer le cap des 100 km, je commence à me sentir, je commence vraiment à me sentir bien et un peu comme si j'avais trouvé mon second souffle. Et donc je rentre effectivement dans une phase où je prends encore un petit peu plus de plaisir et voire même je me sens limite plus performant. Est-ce que ce serait un état de flow?
Ça pourrait. Les caractéristiques de l'état de flow, c'est quoi? C'est automaticité. Hein, donc quand les choses deviennent automatiques, quand elles vont d'elles-mêmes, ça c'est une grande caractéristique de l'état de flow. Et après, il y a vraiment ce côté plaisir, bien-être. Et je peux tout à fait imaginer, et certainement quand on a un effort assez long, eh bien qu'il y a des étapes assez clairement identifiées où là je me sens bien, je me sens très bien. Et puis là c'est vraiment l'extase, quoi. Hein, il y a comme une forme de progression. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des, en termes énergétiques aussi, des choses à régler pour que cet état de flow puisse perdurer dans le temps et qu'on n'ait pas une forme d'illusion de que je suis super bien et puis j'oublie de m'alimenter ou je vais trop vite ou je vais trop ceci ou trop cela, qui fait que je casse complètement cette dynamique-là, quoi. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dangereux, c'est parce que je suis tellement bien dans l'action et dans ce que je suis en train de faire que je perde un petit peu le contrôle et que j'oublie certains principes de base, quoi.
D'où l'importance d'avoir une stratégie de course prédéfinie à l'avance, éventuellement avec notre coach
qui nous accompagne. Bien sûr, hein, je pense que ce soit le coach ou soi-même, la stratégie de course, toute la préparation va me permettre d'être dans le flow. Mais donc il faut pas oublier le côté préparation.
Alors juste pour en finir sur l'épisode d'aujourd'hui où on explose encore les compteurs, on a vu un petit peu ce que c'était que le flow. J'aimerais refaire un parallèle avec l'hypnose où finalement l'hypnose, on va pouvoir entrer en hypnose parce que un hypnotiseur va pouvoir nous mettre dans cet état de conscience modifiée. Il y a même je crois, de plus en plus de techniques d'auto-hypnose. Est-ce qu'il est possible de s'auto-basculer dans un état de flow? Est-ce qu'une fois qu'on a compris, peut-être une fois, deux fois, trois fois, comment est-ce que cet état de flow était arrivé, puis surtout avec les explications, Jean, que tu nous as donné sur les trois piliers de l'état de flow, est-ce qu'on peut soi-même mettre en place des actions, des comportements, des façons de penser pour pouvoir rentrer dans cet état de flow?
Alors oui, hein, et c'est tout l'enjeu de beaucoup de sportifs, parce que l'état de flow est souvent associé à la performance, hein, et ce peu importe le sport, parce que quand je fais les choses automatiquement, eh bien les choses vont me coûter beaucoup moins d'énergie et je vais faire les choses, je vais être plus créatif, les choses vont être beaucoup plus dans l'instant, et l'instant dans beaucoup de sports est fondamental. Et donc il y a des bonnes pratiques qui vont fonctionner avec la majeure partie des gens, hein. Ça va être dans la stabilité d'un échauffement, dans la préparation d'un parcours, la visualisation d'un parcours, je sais pas moi, par exemple en triathlon, la visualisation des transitions, enfin toutes ces choses qui permettent d'anticiper ce qui va se passer, hein, pour créer un maximum de feedback et un maximum de sensations de je connais ça, je suis familier avec ce que j'ai devant moi. Ok, donc on va essayer de créer ça avec l'athlète. Mais après, il y a aussi les bonnes pratiques personnelles. Hein. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et j'ai envie de dire aussi, il faut se raconter son histoire. Hein, Olivier racontait son histoire par rapport au huitième qu'il ajoutait. Hermano, tu racontais ton histoire par rapport à ton pote qui courait à tel rythme. Ben, ça reste quelque chose qui fonctionne pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'athlète, je reconnais ce qui fonctionne pour moi, et puis comment est-ce que je vais le rendre stable. Donc, comment est-ce que je vais arriver à le dupliquer? Comment est-ce que je vais trouver un autre pote à une autre course qui court un peu plus vite? Même si c'est pas vraiment mon pote, je vais quand même le suivre. Comment est-ce que je vais construire ça? Mais c'est plus des huitièmes, c'est des seizièmes, parce qu'avec un huitième, ça fait vraiment trop de kilomètres, etc. Donc il y a tout ce travail de comment je construis mes propres croyances et surtout comment je me raconte ma propre histoire, qui va être fondamentale.
Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces précisions sur l'état de flow. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de mettre en place des automatismes, des routines. Eh bien, c'est ce que je propose d'aborder dans l'épisode de demain. Donc, messieurs, je vous souhaite encore une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode.
À demain.
Parfait, à demain.
Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.
Olivier, pendant ces 1000 kilomètres, il y a des moments où il va se dire putain, j'aimerais, pardon, excusez-moi, purée.
Non, il y a pas de souci.
Non, on va recommencer ça. Olivier, pendant ces 1000 kilomètres, il va se dire ah, j'aimerais bien avoir.
Puis j'ai Google qui se met à parler. Attends, deux secondes. Ok, Google. Stop.
On est quatre.
Pourquoi mon Google s'est mis à parler?
C'est le flow, je crois.